Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé, présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, Manosque, une visite préfectorale à l'Occitane, fleuron de l'industrie basalpine. La marque est présente dans le monde entier. Du 4 au 16 octobre se déroulent les journées nationales de la santé mentale. Dans le 04, l'UNAFAM se mobilise. L'interview de la déléguée départementale dans ce magazine. Du tonus dans l'air à l'EREA de Castelbeuvon dans la vallée du Jabron pour la journée du sport scolaire. Delta Blues est le dernier roman de Julien Delmer. Il y est question de musique, bien sûr, mais aussi du peuple noir dans le Mississippi durant les années 30. Rencontre à la fin de ce magazine. La préfète Violaine Desmarais visite le siège de l'Occitane.
Les différents confinements et les conditions sanitaires n'avaient pas permis à la représentante du gouvernement dans le 04 de se rendre plus tôt au siège d'une entreprise emblématique des Alpes de Haute-Provence. Avec ses 800 salariés en France, dont 200 sur Manosque même, mais aussi 9000 employés sur ses 3486 points de vente dans 90 pays, l'Occitane en Provence véhicule une belle image du territoire. Créée en 1976 par Olivier Bossan, l'entreprise a su se développer en gardant ses valeurs humanistes. Le travail des femmes pour le beurre de karité, ses actions envers les non-voyants et bien sûr sa politique sociale, sans oublier la qualité de ses produits, explique le succès de la société. Un succès qui est dû à une gestion intelligente et une dynamique sur la recherche et la commercialisation maîtrisée de sa production. Distribuée dans le monde entier, ses produits valorisent un savoir-faire et une démarche développement durable. La France représente à peine, est-on tenté de dire, 6% de ses ventes, soit trois fois moins que les seuls États-Unis, et auxquels il faut ajouter les marchés européens et asiatiques en pleine expansion. Avec la sous-préfète de Fort-Calquier, Nathalie William, et la directrice des finances publiques, Isabelle Godard de Vaujany, la préfète était aussi accompagnée du président de la DLVA, Jean-Christophe Pétrini, du maire de Manosque, Camille Galtier, et leurs collaborateurs. Accueillis par le directeur général Lorenzo Giacomoni et son équipe, ils ont pu assister à une présentation du groupe de l'Occitane, visiter aussi son laboratoire de recherche et développement, ainsi que ses entrepôts de production, conditionnement et stockage. Je vous propose d'écouter Violaine Desmarais, Lorenzo Giacomoni, puis Jean-Charles Lomé, responsable biodiversité et développement durable, au sujet des matières premières qu'utilise l'Occitane et qui sont issues du territoire. Violaine Desmarais, vous êtes préfète des Alpes de Haute-Provence. Votre sentiment après cette visite de l'Occitane ?
C'est une grande confirmation déjà et c'est la fin d'une frustration. C'est la fin de la frustration d'être en poste dans un département depuis un peu plus d'un an et de ne faire cette visite qu'un an après, mais d'enfin la faire. Évidemment, j'ai eu l'occasion depuis mon arrivée d'échanger à plusieurs reprises avec les deux directeurs généraux qui se sont succédés dans cette pépite depuis mon arrivée. Évidemment, M. Gonidec, aujourd'hui M. Giacomini, et c'est vrai qu'on a vu aujourd'hui des concrétisations de tout ce qui m'avait été expliqué. Et puis on voit le savoir-faire qu'il y a, on voit qu'on a des perspectives dans cette entreprise, qu'elle est à l'international, qu'elle est ancrée dans le territoire, qu'elle fait travailler des hommes, des femmes dans le monde entier. Et on est vraiment au cœur d'un système éthique qu'on appelle de nos voeux et qui, là, se concrétise de façon très, très, très précise. Et évidemment, on a des projets pour le territoire, des projets pour cette entreprise, pour lesquels on va essayer de mettre encore toute notre énergie. Ça fait quelques mois qu'on y travaille, on le sait. Et on espère voir des aboutissements dans les prochaines semaines pour renforcer encore l'ancrage dans le territoire de Manosque, de l'Occitane.
d'un fleuron de l'industrie. Et vous le dites, effectivement, les services de l'État sont prêts à aider cette entreprise, également la DLVA, également la mairie. Il y a une conjonction d'objectifs, là.
Ah ben, comme souvent, de toute façon, ce qu'il faut pour avoir des réussites comme celle-ci, c'est avoir une entreprise qui est plein de qualité et de projets, qu'elle reste dans le projet. C'est le cas de l'Occitane. Et après, il faut que les acteurs publics se lient, s'unissent et avancent en meute pour pouvoir aider les entreprises à obtenir ce qu'elles souhaitent et à faire qu'elles se sentent bien, qu'elles restent attractives, que le territoire soit attractif. Et on voit qu'on a encore des choses à faire pour permettre à cette entreprise qui offre des emplois à trouver la main-d'œuvre à la hauteur de ce qu'elle offre. Et donc là-dessus, il faut qu'on voit avec la ville, avec l'agglomération, avec tous les acteurs privés, on parlait aussi de l'agence de l'eau sur une partie des projets de cette entreprise, comment on arrive à répondre présent. C'est ce qu'on va continuer de faire.
À vos côtés, Lorenzo Giacomoni, qui est le directeur général de l'Occitane. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la visite de la préfète, mais également du président de la DLVA et du maire de Manosque?
Déjà, c'était un grand plaisir de l'accueillir. Ça fait pas beaucoup moins temps qu'on est en train d'accueillir le monde ici. Donc, ça veut dire qu'on est entré dans la phase, c'est pas encore le post-Covid, mais on est presque là. Et surtout, ça fait plaisir de voir qu'on a à notre côté, comme on disait Madame la préfète, on a des projets et qui sont très, très importants. Et nous, on peut les mettre en place seulement si on a aussi à notre côté et l'État. Et donc, ça fait grand plaisir de voir qu'on est là et qu'ils sont présents, comme disait Madame la préfète.
Votre entreprise a des besoins de recrutement, c'est peut-être le moment d'en parler.
On a beaucoup de besoins d'embaucher aujourd'hui. Et la difficulté, comme on a expliqué aujourd'hui, est qu'on a des temps pour recruter les bonnes personnes qui sont devenues très, très, très longues. Et donc, il faudrait aussi essayer de donner des réponses à ça, surtout sur le court terme.
Également, le fait que vous prévoyez des périodes particulières, est-ce que vous êtes prêt pour Noël, par exemple ?
On a la chance d'avoir bien planifié Noël, et donc même si on a un contexte supply chain qui va être très très tendu, nous on peut dire que notre Noël va être sécurisé.
Jean-Charles Lomé, l'Occitane se produit chez des producteurs locaux dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Oui, en fait, l'Occitane utilise des ingrédients naturels comme des huiles végétales, des eaux florales, des huiles essentielles. Et donc, on a la chance d'avoir un écosystème, une biodiversité cultivée exceptionnelle en Provence et dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et donc, oui, on travaille avec des producteurs d'amandes, de roses, de lavandin, etc.
Vous animez également leur groupe de producteurs, quelle que soit d'ailleurs leur production, et vous essayez de créer une synergie particulière entre eux.
Oui, humblement, on essaie de contribuer à des enjeux qui sont forts, c'est de pouvoir produire durablement. Et donc, on travaille avec une quinzaine d'agriculteurs et d'agricultrices pour tester des techniques, pour améliorer les façons de produire, et notamment l'agroécologie. Donc, c'est pouvoir couvrir le sol, pouvoir remettre l'arbre dans les exploitations agricoles, trouver des pratiques qui vont permettre d'avoir une production plus durable.
Quelles sont les plantes que vous utilisez régulièrement ?
Sur le département, on a des jolis vergers d'amandiers, on a de la rose, on va avoir du tournesol, on va avoir un peu de lavandin, on a la lavande qui est pas très loin. Et après, autour du département, puisque l'agriculture est aussi un territoire à l'échelle régionale, on va avoir de la verveine, de la fleur de cerisier, enfin j'en passe, on a à peu près une cinquantaine de filières de plantes différentes.
Vous avez une approche de qualité par rapport à ces produits ?
Alors, on essaye toujours de travailler avec des producteurs en ayant vraiment la traçabilité depuis le champ jusqu'à notre usine, ce qui nous permet de connaître ces agriculteurs-là, de savoir comment ils travaillent. Et ensuite, on essaye de travailler quand on le peut avec des signes de qualité. Alors, on peut travailler en bio, on travaille aussi avec des AOP, des appellations d'origine protégée, etc. En tout cas, ce qui est important, c'est toujours d'avoir une plante qui est adaptée à son territoire et qui est cultivée par des hommes et des femmes qui connaissent cette plante-là, et les agriculteurs sont pour nous vraiment les garants. Si on prend la lavande, ça fait plus de 100 ans que les agriculteurs savent comment produire cette lavande et comment la produire au mieux.
Journée de la santé mentale, l'UNAFAM se mobilise dans le 04.
Du 4 au 16 octobre se déroulent les Journées nationales de la santé mentale, une manifestation qui cible particulièrement les familles touchées par les troubles psychiques d'un ou plusieurs membres, ainsi que les professionnels de santé. Schizophrénie, dépression ou encore bipolarité, ces troubles sont désormais bien connus et tendent à se développer. Et les périodes de confinement n'ont rien arrangé, bien au contraire. Avec ses permanences et sur 2 semaines, des animations et rencontres, l'UNAFAM, Union des familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques, est un partenaire important de ces journées. Muriel Rocha est la déléguée de l'UNAFAM pour les Alpes de Haute-Provence.
Muriel Rocha, vous êtes la déléguée départementale des Alpes de Haute-Provence pour l'UNAFAM. Qu'est-ce que l'UNAFAM ?
L'UNAFAM est une association d'aide et de soutien aux familles et aux personnes qui ont des proches confrontés aux troubles psychiques.
Quels troubles psychiques ?
Les troubles psychiques graves, c'est-à-dire schizophrénie, bipolarité, TOC et dépression grave, dépression résistante.
Vous êtes structuré dans les Alpes de Haute-Provence, mais vous avez aussi une représentation nationale.
L'UNAFAM est une association nationale. Elle compte 2000 bénévoles sur tout le territoire et 300 points d'accueil. Sur le 04, effectivement, on s'est développé depuis plusieurs années, avec aujourd'hui 10 de bénévoles, 4 points d'accueil et d'écoute des familles et 4 groupes de parole.
À quel endroit ?
Digne, Manosque, Fort-Calquier, Château-Arnoux-Sisteron.
Quelles sont les personnes qui viennent vous voir ?
Alors essentiellement des familles qui sont brutalement confrontées aux troubles de leurs proches, à une crise, à une rechute, un départ en errance. Ce sont des personnes qui sont à ce moment-là démunies, qui ne savent plus trop où se tourner, où trouver de l'aide et du soutien. Il faut savoir que quand on est confronté à ces troubles, c'est un véritable tsunami, on pourrait dire. Il n'y a pas tellement d'autres termes. Et non seulement on peut écouter leur détresse, mais on va leur apporter des pistes souvent concrètes pour se retrouver dans le système de soins.
Il y a des professionnels avec vous ?
Oui, tout à fait. Nos groupes de parole, par exemple, sont animés par des psychologues cliniciennes. On a depuis 2 ans pu développer aussi un soutien avec des séances avec des psychologues. Une famille qui est vraiment dans la détresse peut bénéficier de 4 séances de suivi avec une psychologue et aussi l'aide d'une assistante sociale, ce qui est très utile pour les démarches.
Dans votre association, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues ces jours-ci.
Oui, tout à fait. Nous avons samedi 2 octobre une journée d'information mieux communiquée avec son proche bipolaire, animée par une psychologue clinicienne spécialisée dans la réhabilitation. Elle se tiendra à Fort-Calquier, au centre social La Cordelière. De plus, vont s'ouvrir les semaines d'information sur la santé mentale, 2 semaines, du 4 au 17 octobre, avec des cafés-débats, des webinaires, des expositions. Différents partenaires, c'est le Conseil local de santé mentale de Digne qui est l'organisateur principal de cette action. Et nous, nous proposons 2 actions fortes. Une journée de sensibilisation sur les troubles psychiques, à l'adresse des professionnels, mais aussi des personnes intéressées, tout public, et une formation innovante, premier secours en santé mentale, qui est un brevet de secourisme, en fait, pour avoir des ressources, des outils de réaction devant des troubles psychiques. Ces journées auront lieu le 18 et le 19 octobre pour premier secours, et le 6 octobre pour la sensibilisation. Tout cela à Digne.
Si on est concerné par ces questions, évidemment, il faut éviter de rester isolé et il vaut mieux contacter l'UNAFAM.
Alors tout à fait. Le message le plus important que je peux vous donner, c'est ne restez pas seul, osez en parler, venez nous rencontrer. On a un numéro, un téléphone d'accueil, le 07 67 18 66 88. 07 67 18 66 88. Un mail 04@unafam.org. Nous essayons d'être le plus réactif possible. Une famille qui nous appelle, on essaye de la recevoir dans la semaine.
Vous avez des soutiens institutionnels ?
On travaille avec l'ARS, effectivement, l'Agence régionale de santé, qui nous permet d'avoir certains financements. On est reconnu d'utilité publique. On défend les droits des patients et des familles. Donc on travaille effectivement très près avec l'hôpital, les centres médico-psychologiques, CMP, centre de jour, et on va porter la parole des familles, on va accompagner pour les suivis, etc. Ça, c'est important à savoir, parce que nous sommes représentants d'usagers dans les hôpitaux, ça peut être les centres médico-sociaux, auprès de l'ARS, à la Maison du Handicap, et nous avons participé à l'élaboration du plan territorial de santé mentale auprès du Conseil territorial de santé. Mm-hmm.
sport scolaire en fête à lauréat de Castelbeuvron.
À l'occasion de la journée du sport scolaire, l'établissement régional d'enseignement adapté de Haute-Provence accueillait mardi 21 septembre 150 élèves de primaire et collège dans la vallée du Jabron. En partenariat avec l'UNSS, Fédération du sport scolaire pour le second degré, l'établissement a mis à disposition des élèves venus des communes environnantes, des structures et des espaces spécialement aménagés, le tout encadré par de nombreux enseignants et bénévoles. Au micro de Chris Alessandri, la présentation de cette journée, avec les explications de Frédéric Gilardot, directeur académique, Fabrice Mac, qui dirige l'EREA, et Alexandra Sanan pour l'UNSS 04, également Alain Canu, membre du comité départemental du sport adapté, sur le stand Handisport.
C'est avant tout un moment de retour, de rassemblement, où tous les jeunes qui, pendant cet été, étaient dans leur famille, ont envie de se retrouver. Alors, ils sont retrouvés dans le cadre scolaire, à la fois à l'école, au collège. Mais aujourd'hui, c'est une fête de partage, de solidarité. Donc, ils pourront partager sur différents ateliers. Mais la fête du sport scolaire, c'est celle de la joie, de l'épanouissement et du partage.
Un échange qui doit aller dans quel sens ?
L'échange se fait par exemple entre des élèves dits valides et des élèves en situation de handicap. Lorsqu'il s'agit d'aller en atelier, c'est vraiment le groupe qui est solidaire et qui va partager, faire en sorte que tous les élèves puissent à leur niveau participer à l'effort collectif. Donc on est vraiment dans cette notion de partage et de solidarité dans le sport scolaire.
Ça fait combien d'enfants sur le site de l'EREA ?
Alors aujourd'hui, on a à peu près 150 enfants avec des élèves qui sont eux-mêmes organisateurs. Donc il y a une quinzaine de jeunes qui sont organisateurs. J'allais même dire qu'ils sont relais presse, qui vont faire des reportages. Et puis il y a une trentaine de jeunes officiels qui sont là pour accompagner les élèves avec la participation des jeunes du CAP de l'EREA de Haute-Provence.
Fabrice Mac, quel impact sur une journée comme celle-ci au sein de l'établissement ?
Alors, notre objectif, nous, c'était, quand on organisait cette journée, c'était de faire connaître l'établissement à des gens extérieurs. Comme on est un établissement un peu isolé géographiquement, l'idée, c'était vraiment de faire le lien avec le collège de Sisteron, mais également des écoles primaires de la région et de la vallée en particulier. Donc, nous, l'impact, il est important parce que ça permet à tous ces jeunes de venir découvrir le site de l'EREA, qui est un site assez extraordinaire, 6 hectares de terrain, beaucoup de plateaux sportifs, beaucoup d'activités, et puis leur permettre aussi, voilà, de découvrir un environnement et de se mélanger avec d'autres élèves aussi, à profils différents, puisque nos élèves, nous, sont plutôt des élèves en retard scolaire persistant et durable, mais leur montrer aussi voilà, qu'il se fait d'autres choses ailleurs. Et l'impact, c'est tout simplement faire connaître l'établissement, lui donner une lisibilité, une visibilité à l'extérieur.
Certes, vous avez l'espace, mais c'est également toute une structure que vous avez dû mettre en place pour cet événement.
Oui, c'est toute une structure, toute une organisation que nous avons mis en place conjointement avec l'UCEP et l'UNSS, puisque ça fait plusieurs mois qu'on prépare cet événement, qu'on l'organise. On est dans l'installation depuis hier, donc c'est une grosse logistique, un très gros investissement que l'on doit aussi à une partie de nos élèves, puisque ce sont nos lycéens, nos 35 CAP, qui sont dans l'organisation et qui depuis hier aident à l'installation et qui vont aider aujourd'hui à l'accompagnement et à l'encadrement de tous les groupes.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'esprit en général qui règne avec les élèves, avec vous, avec les personnes qui encadrent ?
Alors, généralement, l'esprit est bon et puis effectivement, il y a un gros esprit de famille et de convivialité dans cet établissement. Donc du coup, c'est plus simple aussi parce qu'on a une petite structure, 92 élèves, mais aussi parce que justement, on crée du lien avec ces élèves-là. Certains sont chez nous depuis un an ou deux ans, mais certains sont ici depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc ils ont fait le collège et ils font un CAP derrière. Donc ce qui crée vraiment un esprit de famille, mais aussi un sentiment d'appartenance à l'établissement et ce qui notamment les sensibilise à l'image qu'ils peuvent représenter et donner de leur établissement auprès des jeunes de l'extérieur et puis des adultes qui viennent aussi ici animer et puis visiter l'établissement. Voilà, donc ils ont une grosse responsabilité, ils le savent, mais c'est quelque chose qu'ils sont totalement en maîtrise et pour lequel il n'y aura pas de problème.
Alexandra Sananès, directrice de l'UNSS 04, simplement pour faire un petit tour sur les différentes activités qui sont proposées sur la journée du sport scolaire à Castelbeuvron.
Alors, on a pas mal d'activités, donc entre autres, on va avoir du kickboxing, du badminton, du tennis de table, du judo. On va avoir des activités PEPS test liées à la forme et à la santé physique. On va avoir du rugby, du basket fauteuil, du football. On va également avoir de la boxe savate française, de l'ergo aviron. On va également avoir des ateliers qui sont liés à la nutrition, le vélo smoothie, et des ateliers liés à l'environnement, le relais cyclé. Vous voyez, donc un éventail d'activités vraiment présentes sur le site. Cette journée, elle est organisée parce qu'elle est lancée par le ministre de l'Éducation nationale. C'est la journée nationale du sport scolaire. Elle est là pour permettre à tous les enfants, tous les écoliers, tous les collégiens, tous les lycéens de découvrir des nouvelles activités sportives, de se lancer dans l'activité sportive, puisque le sport, c'est bon pour le moral, pour la santé, physique, mentale, parce que le sport, c'est bon pour la vie.
Angèle, vous êtes sur un fauteuil, là, quelle est votre réaction? Vous venez de disputer un match.
Bah, en vrai, je pensais que c'était beaucoup plus difficile, mais en vrai, ça va. On arrive à gérer.
Comment vous arrivez à contrôler? Parce que là, vous perdez les jambes systématiquement.
Bah, en vrai, je sais pas comment, mais on arrive, on y arrive.
Avec la volonté?
Ouais, c'est ça. Après, voilà. On essaye de comprendre et après, voilà, on y arrive. Après, c'est dur de marquer, mais bon, on essaye.
Mais on se décourage pas.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, on continue le match.
De rien, de rien.
Alain Canu, pour simplement préciser vos fonctions sur le site et puis en général au niveau donc associatif.
Alors aujourd'hui, j'interviens au niveau du comité départemental du sport adapté, notamment dans le cadre des techniques de la pétanque adaptées par rapport au public.
Qu'est-ce qui se passe là sur le terrain? Quels sont les exercices que vous pratiquez, que vous faites pratiquer?
Alors on a différents exercices. Il y a des techniques d'approche de lancer de balles pour évoluer par la suite vers la boule. Donc c'est tout un travail d'approche concernant la distance, la maîtrise, la force et la puissance.
De quelle façon, quelles sont les techniques qu'il faut rapidement, je pense, apprendre et mettre en pratique, parce qu'il faut être très réactif aussi en fonction des enfants qui sont ici?
Le grand avantage des enfants, c'est que finalement, ils s'adaptent beaucoup plus vite que nous. Et donc, à partir de là, il suffit de leur montrer, par des jeux, par des actions ludiques, comment nous procédons, et il y a une imitation qui se fait, et on va rechercher chez eux, notamment, cette maîtrise du lancer, de la portée, de la demi-portée, du fer, des termes techniques que nous allons retrouver par la suite au niveau du jeu de boules et dans le cadre des compétitions.
Là, par exemple, sur le sable, on assiste à quoi?
Alors là, on assiste à une maîtrise de lancer concernant les différentes distances à 6 mètres, 7 mètres et 8 mètres que nous allons retrouver dans un jeu de boules ordinaire par la suite.
Ça fait appel à quelle notion?
C'est d'abord une notion d'évaluation des distances, essentiellement. Ensuite, de maîtrise au niveau du geste, de la kinesthésie du geste, et notamment, on va affiner sur la notion du lancer, après on aura les lancers glissés, etc.
Et la perception du son?
Alors la perception du son, on va le faire par un autre exercice que vous voyez sur ce tapis. Ce tapis s'adresse essentiellement aux personnes qui sont en situation d'handicap physique, mais aussi on peut l'utiliser pour les non-voyants. Et là, le but de l'exercice, ça va être aux jeunes de leur faire percevoir que les non-voyants peuvent jouer aussi au boule. Et là, il va y avoir toute une approche au niveau du masque qui sera mis sur les yeux. Et les jeunes vont envoyer la boule dans une direction. Ils vont là ressentir d'autres sensations.
Visiblement, les jeunes s'impliquent. Ça vous fait quoi de voir ça?
Plus qu'ils s'impliquent, parce que là, on est dans de la découverte. Là, on est dans des potentiels très, très importants sur ces jeunes-là que nous allons mener, et je l'espère, vers différentes compétitions par la suite.
Qu'est-ce que vous pensez d'une journée comme celle-ci?
Ah ben c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir avoir un potentiel 2024 pour nos jeunes, parce qu'on travaille aussi dans ces pépinières-là pour les compétitions, les futures compétitions, et puis on soutient aussi 2024 dans cette action.
Delta Blues, Julien Delmer, musique, misère et mystère.
Poète, slammer et écrivain talentueux, Julien Delmer a publié Delta Blues chez Grasset cet été. Une immersion dans le Mississippi des années 30 en compagnie de bluesmen des origines, Willie Brown, Son House, Charlie Patton ou encore Howlin' Wolf, sans oublier Robert Johnson, dont la légendaire rencontre avec le diable est un mythe. Son jeu de guitare et ses chansons, Crossroads, Love in Vain ou Sweet Home Chicago, par exemple, ont marqué des générations de musiciens. Mais si l'auteur donne trait et vie à ces artistes, il dresse aussi un tableau bien sombre du Deep South. La misère, le racisme, la docilité, comme la révolte du peuple noir, sont auscultés avec justesse. En face, l'exploitation, les richesses, la violence avec le sinistre Ku Klux Klan font le quotidien des Blancs, avec quelques rares exceptions, comme ces émigrés allemands juifs tétanisés par la montée du nazisme dans leur pays où sont restés leurs enfants. On joue, danse et chante partout dans le Delta. Chant de coton, blanchisserie, boui-boui, pénitencier ou encore dans la rue, le rythme et la musique sont partout. À l'église aussi, où la confrontation des croyances et rites catholiques et vaudous se heurte ou se mélange selon. On suit la route de Betty, blanchisseuse au cœur et à la voix d'or, son mari le frêle Steve, sa tante l'étrange Saphira, sorcière crainte et respectée, des patrons de juke joints, des moonshiners, nous sommes en pleine prohibition, des prostituées, un pasteur contesté et en face, un shérif et son adjoint naturellement et foncièrement violents, des riches planteurs qui porteront leur sinistre accoutrement en blanc, bien sûr, du clan, pour punir et martyriser des noirs récalcitrants. Sans oublier l'Egba, être surnaturel et sanguinaire. Car à ce tableau social et historique s'ajoute le vaudou, ses rites et ses divinités cruelles ou bienfaisantes, des mystères souvent sanglants. Pour qui aime la musique, Delta Blues est un roman passionnant, mais aussi il captivera tout curieux des États-Unis, de la ségrégation et du racisme. Présent lors des correspondances de Manosque pour une lecture et brillamment accompagné par le guitariste Nicolas Repac, Julien Delmer a fait une halte remarquée à la Petite Marmite, cantine participative de la cité de Giono. Il a aussi gratifié les spectateurs de quelques-uns de ses superbes poèmes. Julien Delmer, vous venez de produire Delta Blues. Vous êtes fasciné par le blues ?
Ah, on peut parler de fascination, en effet, parce que c'est vrai que c'est une musique, évidemment, que j'écoute depuis une bonne trentaine d'années. Mais au-delà de la musique en soi, c'est aussi une culture qui me fascine. Moi, j'ai toujours été vraiment interrogé par le fait que cette musique qui aujourd'hui irrigue l'ensemble de la culture mondiale est né dans un tout petit territoire, le delta du Mississippi, a été créé par des gens qui vivaient dans des conditions sociales extrêmement dures, qui étaient persécutés, qui étaient harcelés constamment, soumis au racisme, à des salaires de misère, etc. Des gens qui n'étaient pas du tout des artistes professionnels, qui se destinaient pas à la gloire ni au succès. Et qui ont créé avec les moyens du bord, parfois des instruments rafistolés, bricolés, qui ont créé peut-être une des musiques les plus expressives, les plus authentiques, une des musiques les plus peut-être universelles, alors que c'est vraiment un territoire qui par contre lui est bien balisé, qui a une histoire propre, mais ils ont atteint l'universalité à partir de leur singularité. Ça, c'est vrai que les artistes de blues m'ont toujours fasciné pour ça.
Vous leur donnez matière à vos artistes de blues, justement, que ce soit Charlie Patton, Sondhouse, Willie Brown et bien sûr, le plus grand peut-être, Robert Johnson, Bobby, dans votre livre. Comment ça s'est passé, justement, les recherches que vous avez faites pour le jeu de guitare de Robert Johnson, pour la façon de chanter ou de jouer de l'harmonica ?
En fait, le travail de documentation a été... Alors, très long, mais en même temps, j'ai choisi pour ce roman, et je pense que c'était la meilleure solution, sinon j'y serais peut-être encore, d'écrire en même temps que je me documentais. C'est-à-dire, en gros, j'organisais mes journées, j'ai mis 2 ans à écrire ce roman, entre le matin, écriture pure, et l'après-midi, documentation, en sachant que c'était vraiment pour moi une immersion totale, c'est-à-dire que j'ai vraiment là, pour le coup, passé 2 ans à écouter, à réécouter du blues en permanence. Et en ce qui concerne vraiment ces petits, comment dire, ces éléments qui font le principe de réalité, comme vous dites, cette voix, c'est harmonica, même la marque d'une guitare, etc. Mais ça, j'ai pioché dans des livres qui sont nombreux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de livres écrits sur le blues, sur Robert Johnson aussi, principalement. C'est pour ça que je voulais pas, d'ailleurs, que Delta Blues soit une biographie romancée de Robert Johnson. Je voulais, tout en restant fidèle à certaines anecdotes, à certaines réalités du blues, y compris ce qui pourrait paraître le plus matériel, c'est-à-dire, voilà, est-ce que Sondhouse utilisait un médiator ou est-ce qu'il attaquait les cordes à main nue, etc. Ça, je voulais que ce soit précis. Après, je voulais aussi me laisser une liberté fictionnelle, c'est-à-dire pouvoir, à un moment, créer d'autres personnages qui ne soient pas forcément des personnages historiques, et même ces personnages historiques-là m'autoriser des écarts, peut-être, avec l'histoire, en sachant que beaucoup de ces héros du blues ont aussi leur part d'ombre, à commencer par Robert Johnson, puisqu'il y a tout un pan de sa vie qu'on ignore. On sait qu'il était d'un endroit à l'autre, qu'il voyageait en train, mais on ne sait pas ce qui se passait entre ces étapes. Et donc, c'est aussi des vies comme ça en pointillés qui sont propices à l'intrusion de la fiction. Et donc, finalement, je ne me suis pas complexé. Je ne voulais pas un livre qui s'adresse uniquement aux spécialistes du blues, même si je voulais qu'un amateur ou un, entre guillemets, spécialiste du blues puisse s'y retrouver. Je voulais que ce soit un livre qu'on puisse ouvrir, même si on n'a qu'une très vague idée de ce qu'est le blues du Mississippi. Donc, je voulais cet équilibre-là entre fiction et précision documentaire, entre rêverie, entre comment dire, projection mentale et puis réalité historique.
Alors, il y a dans Delta Blues des musiques voisines, il y a le gospel, bien sûr, il y a aussi les hollers, les work songs, enfin, beaucoup de choses qui sont chantées, notamment par les Noirs, et c'est le deuxième élément de votre livre, c'est la situation misérable des Noirs des États-Unis dans les années 30, 1930, c'est tout juste pendant la prohibition ou après la prohibition, le peuple essaie d'avoir une conscience politique.
Alors, la situation des Noirs du Sud et particulièrement du Mississippi, elle est complexe dans les années 30 parce qu'effectivement, la crise de 29, là, moi, le roman débute en 1932. Donc, les effets déjà de la crise se font déjà sentir. Il y a aussi eu quelque chose de très important dans le Mississippi, c'est que en 1927, il y a eu une inondation absolument catastrophique, presque biblique, un déluge biblique qui a recouvert toute une partie du delta, qui a fait énormément de morts et puis qui a rendu inexploitables les champs de coton pendant des mois, voire des années. Il y a une grande saignée démographique dans les années 30, c'est-à-dire que les Noirs qui ne supportent plus de subir le harcèlement du clan, du Ku Klux Klan, les salaires de misère et qui se retrouvent finalement, certes, officiellement plus esclaves, mais toujours asservis, décident de rejoindre le Nord par tous les moyens, certains en charrette, d'autres en train. Et donc, il y a une véritable saignée démographique au point même que les propriétaires terriens blancs menacent, voire intimident, voire violente, voire tue les gens pour les dissuader de quitter le Mississippi, c'est-à-dire que la main-d'œuvre s'enfuit. Donc c'est une période extrêmement significative de l'histoire des Noirs du Sud. Il faut savoir aussi qu'il y a quelque chose de paradoxal quand même dans le blues du Mississippi, c'est que ces gens qui ont créé vraiment, je parle pas de la création, disons les gens qui ont donné vie à cet âge d'or, je pense à des gens comme Sunhouse, Willie Brown ou des gens comme, peut-être différemment, mais pour Robert Johnson, sont des gens pour qui une carrière professionnelle n'était pas forcément un objectif. C'est des gens qui ont enregistré, c'est le début aussi des enregistrements sonores, des sillons, c'est vraiment le début de la musique enregistrée. Ils ont enregistré, mais ensuite, la plupart, je pense notamment à Sunhouse, pendant presque 30 ans, est revenu à un relatif anonymat, c'est-à-dire qu'ils jouaient de temps en temps dans des petites salles du Mississippi. C'est qu'après, dans les années 60, qu'on les a redécouverts. Donc ce qui me paraissait aussi important, c'est, je dirais pas la gratuité du geste, mais ce que ça donne à croire, c'est qu'enfin à penser, c'est que en fait, ce blues était nécessaire. C'est-à-dire, au-delà des perspectives de s'enrichir, aucun bluesman de cette époque ne s'est enrichi. C'est bien plus tard qu'il y a eu commencé à avoir des stars comme B.B. King qui ont commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Mais c'était une nécessité, je pense, pour supporter tout simplement le quotidien, témoigner et apporter un réconfort à la communauté. Donc moi, je pense que vraiment, là, on a une musique, c'est un exemple rare de musique populaire qui soit vraiment dictée d'abord par une nécessité de faire peuple, de serrer les coudes et de témoigner de ce qu'est la vie quotidienne, pas d'ailleurs en mode forcément tragique, hein. On a peut-être une image un peu trop caricaturale d'un blues mélancolique, c'est aussi le blues des corps qui exultent, de la sexualité qui s'exprime, de la joie, de la réalité quotidienne, en fait. C'est voilà, je joue ce que je vis et j'en témoigne auprès de ceux qui savent de quoi je parle. C'est vraiment une musique unique pour ça, peut-être.
Il y a un dernier élément aussi dans votre livre qui est important, mais on laissera le mystère planer. C'est évidemment tout le côté spirituel, que ce soit au niveau du vaudou ou de la religion chrétienne, j'entends. Vous êtes ici à Manosque, Julien Delmer, une ville que vous connaissez bien. Vous avez présenté une partie de votre spectacle avec Nicolas Repac à la Petite Marmite, et vous êtes présent aussi dans les correspondances. Comment vous êtes reçu à Manosque ?
Alors, ce qui est vraiment, j'allais dire, immédiat quand j'ai débarqué à Manosque avec Nicolas, qu'on a joué là, la Petite Marmite, qui est un lieu que je connaissais pas, mais dont je connaissais l'action parce qu'on me l'a décrit. C'est vraiment un lieu assez unique, solidaire, à la fois culturel, social, avec des bénévoles hyper investis. Et immédiatement, je me suis senti, et Nicolas aussi, à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité. On n'avait pas du tout la même pression qu'on peut avoir quand on monte dans une scène d'un théâtre officiel. C'était quasi en plein air, en fait. On a joué en plein air. Les gens passaient, certains s'arrêtaient, d'autres étaient là pour nous écouter. Mais il y avait vraiment quelque chose de spontané. Et je pense que ça, c'est rare, finalement, parce que moi, là, j'enchaîne depuis la sortie du livre, les rencontres très formelles dans les festivals, avec une heure d'interview, de rencontres avec d'autres écrivains. On nous pose des questions parfois qui nous dépassent complètement, d'ailleurs, peut-être trop, avec trop d'enjeux, alors ce qu'on est avant tout des créateurs. Et comme on l'a discuté tous les deux en off, effectivement, tout ce que j'ai à dire sur mon livre est dans mon livre. Donc effectivement, parfois on a l'impression soit de faire de la réclame, soit d'être un peu comme ça dans une posture. Là, il n'y avait pas de posture. J'avais vraiment l'impression de proposer à des gens bienveillants quelque chose que j'avais en moi. Et c'est dur à quantifier, à expliciter, mais quand on a cette impression-là de jouer, entre guillemets, en famille, alors qu'on ne se connaît pas forcément, c'est hyper apaisant. Moi, là, je suis arrivé, là, ça fait quand même près de 3 semaines que je fais la promotion du livre. Je dois dire que je suis assez fatigué, mais vraiment, cette lecture, elle m'a apaisé, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que j'appréhende peut-être mes futures lectures comme ça, même si le cadre est différent, c'est avec cette même spontanéité. Non, c'était une très belle expérience.
C'est la fin de ce Force 7. Merci François, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Oui Olivier, sans problème. Mais juste avant, on va rester dans l'ambiance Delta Blues avec Robert Johnson, qui chante une chanson très célèbre que tout le monde connaît grâce notamment aux Blues Brothers. C'est Sweet Home Chicago. Et puis évidemment, c'est la version originale. Donc plongeons dans les années 30, dans le sud des États-Unis. Et je vous recommande une fois de plus Delta Blues de Julien Delmer. À la semaine prochaine. California, to my sweet home, Chicago.
walking around your friend, boy, he gonna get you. Venus all on a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm 6 and 2 is 8, 8 and 2 is 10. Friend, boy, she tricked you one time. She sure gonna do it again, and I'm crying, hey, baby, don't you want to go? To the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm going to California, from 30 miles away. Somebody will tell me that you need my help someday, crying. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home.